Un grand merci de m'avoir invité et merci surtout à vous d'être là ce soir. Vous m'entendez bien tous, ça va ? Lorsqu'on m'a proposé le thème de cette conférence, j'ai évidemment immédiatement accepté par amitié pour Alexandre et pour l'abbé Joseph. Et puis avec le temps, je me suis dit deux choses. La première, plutôt philosophique, je me suis dit, en fait, c'est immense, ce thème est vertigineux. La foi, qu'est-ce que ça change si on y réfléchit une seconde? Comment vous parlez de ça en une petite soirée? Et la seconde réflexion qui m'est venue, très humaine, c'est en fait, je suis plutôt fatigué en ce moment. Donc comment je vais faire? Alexandre l'a mentionné, le dernier n'a pas encore 6 mois, il fait à peine ses nuits, vous voyez. Donc, on fait les allers-retours entre le ciel et la terre, ou plutôt on reste beaucoup sur terre, mais voilà. Vous l'aurez compris, donc je suis un penseur chrétien, mais surtout un être humain, trop humain. Et c'est pour cela que j'aimerais vraiment confier cette soirée au Seigneur, à l'Esprit-Saint, et puis commencer par une prière, si vous le voulez bien. Et j'aimerais vous lire une prière que j'aime beaucoup, qui est tirée de l'hymne de la foi de saint Éphrem. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Toujours, Seigneur, quand j'ai médité sur toi, j'ai reçu de toi un trésor. Et là où je t'ai contemplé, une source a coulé de toi, et j'ai puisé tant que j'ai pu, gloire à ta source. Elle est cachée, ô mon Seigneur, ta source, à qui n'a pas soif de toi, et vide la salle de ton trésor, pour qui te hait la charité et le trésorier de ton trésor céleste. Quand je m'éloigne de ta compagnie, ta beauté excite mon désir, et quand j'accompagne ta majesté, ta gloire me remplit de crainte. Que je m'éloigne ou que je m'approche, je suis le vaincu de toute façon. J'ai médité, j'ai parlé de toi, non que je t'ai compris, puis j'ai succombé et je me suis tu à nouveau, non que je t'ai perdu, je me suis perdu en toi et je suis resté sans voix. Gloire à toi, être caché. Amen. Il y a 15 ans, tout frais moulu de mes 10 ans d'études universitaires, remplis de tout un tas de références théologiques, d'idéaux de sainteté, d'évangélisation, je vous aurais sans doute donné une conférence très très bien construite, remplie d'affirmations édifiantes et de citations toutes plus belles les unes que les autres. À 40 ans passés, je n'ai plus l'impression d'avoir des réponses simples. J'ai plutôt le sentiment, à vrai dire, d'avoir plus de questions que de réponses. Plus de silence que d'évidence toute faite. Plus de désir de silence intérieur aussi, et c'était le sens de cette prière. Et pour couronner le tout, il me semble avoir accumulé, dans ma petite expérience d'église, plus de contre-témoignages en moi et autour de moi que de beaux exemples. Si je devais donc résumer en un mot ce à quoi tient ma foi aujourd'hui, ce serait un seul, le mystère. On dit souvent que l'Église souffre aujourd'hui de plein de choses, d'un manque de crédibilité, de proximité, de modernité, de jeunesse, d'audace, que sais-je. Je crois qu'elle souffre plus profondément d'autres choses. Elle souffre d'un manque de mystère. Dans un très beau livre d'entretien, John Foss, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un dramaturge norvégien qui a été prix Nobel de littérature en 2023. Il décrit en fait son itinéraire spirituel et il commence par décrire une expérience très forte qu'il a faite enfant de mort imminente. Il s'est blessé et la vie commençait à le quitter, Il raconte un peu comment il est sorti de son corps, ce qui s'est passé. Et il avait grandi et il avait été un tout petit peu éduqué dans l'église luthérienne. Et il écrit ceci. Je le cite, « Cette expérience que je ne peux qualifier que de mystique, donc cette expérience qu'il a faite enfant, a été aussi en arrière-plan quand il m'importait tant de quitter l'église d'État. Et ce, dès que j'étais en âge de le faire. J'ai écrit une lettre au pasteur lui disant que je ne voulais pas être membre de l'église d'État, car là, dit-il, à l'église ou dans le christianisme des paroisses, tel que j'ai pu le vivre, je n'ai pas trouvé le mystère. » Voilà ce que nous dit John Foss, qui dans son entretien du reste témoigne de sa conversion et de son chemin vers le catholicisme. Il faut bien s'entendre. Le mystère dont je parle n'est ni un brouillard spirituel, ni une spiritualité vague, ni une manière élégante de ne rien dire. Il est celui auquel saint Paul fait constamment référence en nous invitant à comprendre, je le cite, avec tous les saints, quelle est la largeur, quelle est la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que nous soyons, dit-il, remplis de la plénitude de Dieu. Le mystère n'est pas ce qui est mystérieux, comme on le dirait aujourd'hui, mais ce qui est insondable, inépuisable, cet océan sans fond ni rivage dont parlait Jean Damascène, ce cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part dont parlait Alain Glil, cette existence sans pourquoi de Dieu qui se rend pourtant saisissable et proche de nous en Jésus. Et de fait, dans les évangiles, Jésus ne parle-t-il pas en parabole ? Et pour révéler ce sens caché, ne dit-il pas à ses disciples, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » Chez les pères de l'Église, les premiers grands penseurs chrétiens, le mystère désigne ce qui se révèle en se donnant sans jamais s'épuiser, ce qui devient proche sans cesser d'être insondable, ce qui nous est donné précisément en Jésus-Christ. Jésus, Dieu fait homme, manifeste en effet le mystère d'amour que Dieu porte sur nous de toute éternité. Mystère annoncé, préfiguré dans les Écritures, mystère réactualisé dans la liturgie, dans la pensée chrétienne antique, contrairement peut-être à nous qui imaginons que pour faire une expérience mystique, il faudrait éprouver de grandes choses, faire un voyage en Orient, que sais-je. Pour les pères et la pensée chrétienne, la mystique n'est pas d'abord une expérience intérieure exceptionnelle, elle est participation au mystère de Dieu. Et cette participation, elle est inséparablement personnelle, ecclésiale et sacramentelle. Et du reste, le mot latin qui a traduit « mysterion », le mystère en grec, est, peut-être vous le savez, « sacramentum », qui est notre sacrement. Le mystère chrétien n'est donc pas d'abord une idée, mais une réalité dans laquelle on entre. Il se donne, il transforme, il unifie. Et bien sûr, l'enjeu n'est pas seulement de parler du mystère, mais de faire de sa vie un mystère, une liturgie, une offrande, selon ce que nous dit saint Paul en Romains 12, je le cite, « Je vous exhorte, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et si vous lisez le texte en grec, saint Paul dit « Ne vous conformez pas au schéma de ce monde, mais métamorphosez vos intellects, vos intelligences, en discernant quelle est la volonté de Dieu. » Faire de nos vies des offrandes, accueillir les mystères du Verbe incarné et les laisser configurer notre existence, voilà, me semble-t-il, ce que la foi change aujourd'hui dans ma vie. cette entrée dans le mystère, qui pour moi est la vraie mystique chrétienne, n'est pas d'abord affaire de phénomènes extraordinaires. Elle n'est pas seulement adhésion intellectuelle, pratique religieuse ou appartenance sociale. Elle est, et j'aimerais qu'on s'y arrête, qu'on laisse ces paroles résonner en nous, elle est itinéraire, elle est traversée parfois du désert, elle est une humble ascension et elle va, comme disait Grégoire de Nyssa, de commencement en commencement vers de nouveaux commencements, c'est-à-dire elle n'a jamais de fin, cette itinérance spirituelle. Vous l'aurez compris, on peut comprendre aisément que lorsque le mystère fait défaut, disparaît, vient, pour ainsi dire, au second plan, deux tentations apparaissent presque toujours dans l'Église, soit une forme de moralisme, Nietzsche dirait la moraline, où la foi est réduite à une sorte de code de conduite, on aime ça dans le diocèse, je passe, et l'idéologie, où la foi est réduite à un système explicatif. Dans les deux cas, la foi cesse d'être un chemin de rencontre et de transformation. Et ce chemin, dans le fond, constitue le cœur de ce que j'aimerais vous dire ce soir sur qu'est-ce que ça change la foi aujourd'hui. Et pour ce faire, je vous ai distribué quelques textes. Et je vous lirai simplement un petit texte qui est tiré, je le citerai beaucoup ce soir, de Don Augustin Guilleran, qui est un prêtre diocésain qui a fini sa vie comme chartreux et qui a écrit un certain nombre de perles spirituelles que j'aimerais vous partager ce soir. Dans une de ces perles, c'est le premier texte, il dit ceci, « Ne vous pressez pas, le moyen d'aller vite, il parle de la vie spirituelle, de la vie de foi, en ces terrains de vie, c'est d'aller lentement, ou mieux d'aller au pas de Dieu qui, lui, n'est pas pressé. La vie est un voyage. Si on marche, si on est en mouvement, tout va bien. Ce que le bon Dieu ne supporte pas, nous dit Augustin Guilleron, et ce qui est en effet intolérable, il est fort dans ces mots, ce sont les âmes stationnaires, ou parce que inertes de nature, ou parce que persuadées d'avoir atteint le sommet au-delà duquel il n'y a rien. Les âmes stationnaires, celles qui ne bougent et qui n'avancent plus vers Dieu. C'est intéressant, si vous y réfléchissez, de remarquer que nous avons des évangiles pour entrer dans le mystère de Dieu, c'est-à-dire que nous n'avons pas des traités abstraits, des récits métaphysiques, mythologiques, des sagesses, comme on peut trouver dans d'autres contextes culturels, nous avons le récit de la vie de Jésus. La découverte de qui est le Christ, elle se fait précisément en entrant progressivement dans cette vie de Jésus. Elle suppose cet itinéraire nourri des Écritures en résonance avec nos vies. Et saint Irénée de Lyon le dit magnifiquement, à travers cette descente de Dieu en Jésus-Christ et ses évangiles qui nous font entrer dans son mystère, c'est comme si Dieu avait pris la peine de s'abaisser jusqu'à nous et de nous familiariser avec lui, comme si c'était trop difficile, voyez, pour nous d'entrer, tout petit que nous sommes, dans l'insondable mystère de Dieu. Il fallait bien qu'il passe par la médiation humaine, l'incarnation, et par le récit d'une vie aussi humaine et divine. Et saint Irénée, c'est le deuxième texte, nous dit ceci, « Le Verbe de Dieu a habité en l'homme et s'est fait fils de l'homme pour habituer l'homme à recevoir Dieu et habituer Dieu à habiter en l'homme. » Habituer l'homme à recevoir Dieu et habituer Dieu à habiter en l'homme. Ce soir, je crois que vous l'avez compris et j'espère ne pas trop sortir du programme prévu, mais je ne vais pas vous expliquer comment réussir votre vie chrétienne. Je vais plutôt essayer de vous dire, à la lumière de ce que j'ai essayé de vous partager, qui est une conviction profonde qui m'habite, comment plutôt j'ai échoué la mienne. Ou plutôt, je commence gentiment, tout doucement, à comprendre qu'il y a parfois plus à échouer qu'à réussir, plus à gagner en perdant, peut-être même plus à chercher qu'à trouver, ou du moins à trouver pour chercher encore, comme le disait saint Augustin. Au fond, vraiment en réfléchissant à cette thématique, je me suis dit, vivre ma foi aujourd'hui ne change pas d'abord ce que je fais. Cela change plutôt comment je me tiens dans le monde. Parce que la foi ne me sépare pas sociologiquement des autres. Déjà, l'épître à Diognète dit, dès le deuxième siècle, que les chrétiens ne se distinguent pas par leurs vêtements, par leur langue, par leurs usages. A priori, si vous me croisez dans la rue, vous ne savez pas que je suis chrétien ou que j'ai la foi. Les chrétiens ne marchent pas de manière différente que les autres. A priori, ils ne s'habillent pas de manière différente que les autres. Et j'irai même plus loin, je ne suis certainement pas comme chrétien en possession d'une quelconque supériorité morale. Je connais des non-chrétiens beaucoup plus édifiants et bien plus vertueux que moi. Et à vrai dire, les chrétiens de l'Antiquité, ces pères de l'Église que j'aime étudier, le savaient parfaitement parce qu'ils s'inspirèrent aussi, par exemple, des stoïciens de la philosophie morale païenne dans leur morale. Et ce qui est intéressant, c'est si vous regardez dans l'Évangile, Jésus admire certains païens. Déjà, la Bible met en évidence la vie admirable d'un grand païen qui est Job. Job est en dehors du monde juif. Et pourtant, Job est mis comme modèle dans la Bible. Un grand païen, c'est-à-dire un non-chrétien, admiré ou non-juif, admiré par Jésus et le centurion romain, par exemple. Vous connaissez tous cet évangile. Mais il y a un endroit où Jésus critique particulièrement les païens. Est-ce que vous vous en rappelez ? Où il dit, ne faites pas comme les païens. Absolument. C'est la prière. Ne priez pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Et littéralement, le verbe grec dit qu'ils disent patati patata. C'est très intéressant parce que si vous regardez bien, le mystère aussi de la prière dans les Écritures et dans la Bible, ça n'est jamais une histoire, comme on pourrait se l'imaginer, de tranquillité intérieure, de paix de l'âme, depuis Abraham qui essaye de négocier avec Dieu, n'est-ce pas, qu'il n'extermine pas absolument tout le monde, et c'est une vraie négociation commerciale, jusqu'à Jésus à Gethsémani. La prière dans le mystère tel qu'elle nous est donnée dans les Écritures et qui est précisément ce qui chez Jésus nous invite à ne pas faire comme les païens, n'est certainement pas réciter des prières et n'est certainement pas une expérience wellness. Je vous ai mis un très beau texte, le troisième, encore de Don Augustin Guilherand, qui dit ceci. Il ne s'agit pas du mystère de la prière. Hein. Il ne s'agit pas de supprimer toute inquiétude et de sentir la paix. Avoir la paix est une chose. Sentir qu'on a la paix et le goûter est une toute autre chose. Ce qui nous trompe, c'est notre habitude de vivre par sensibilité et de ne croire qu'à ce que nous voyons ou sentons. Il nous faut nous dégager de cette confusion, source de souffrance, entre la vie vraie, qui est la vie de foi et d'amour, et les mouvements inférieurs de la sensibilité qui ne sont que l'écorce de la vie. N'ayons pas peur des prières arides, arides c'est-à-dire sèches, hein, sans plaisir, sans consolation. Notre désir de parler à Dieu et de nous unir à lui se cache au fond de ces sécheresses qui nous crucifient et ravit le cœur du bon Dieu. Il aime beaucoup ce langage de l'âme qui dit « Je ne comprends rien, je ne sens rien, je ne pense à rien. Il me semble être comme un morceau de bois devant vous. Cependant, vous voyez le fond de mon cœur, je ne veux que vous. » La foi, bien que surnaturelle, ne m'élève donc pas au-dessus de l'humanité ordinaire, du quotidien banal, de la fatigue, j'en ai parlé, des remises en question, de toutes sortes de choses qui nous surprennent, surtout quand on a 4 enfants. Elle n'empêche ni les crises, ni les sécheresses, ni l'épreuve. Elle ne simplifie pas la vie et parfois même, elle la rend plus exigeante. La foi n'est pas une protection contre la vie. Elle est une manière de la traverser, ou plutôt de se laisser traverser et transformer par le projet de Dieu, aussi déroutant soit-il. Je crois donc que la foi change d'abord la manière dont je me tiens dans le monde, à travers une certaine disponibilité, un regard, une écoute, un autre rapport au temps et à l'efficacité. Ce n'est pas d'abord ce que l'on fait, mais comment on le fait. Je vous donne un exemple très concret. Ce soir, je me suis dit, je suis fatigué, pourquoi j'ai accepté cette conférence? Et après, je me suis dit, mais on va vivre quelque chose. J'accueille et je me rends disponible à ce qu'on va vivre, à vos visages, à cette soirée. Et si je suis là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et s'il l'a voulu, je me dois être présent à ce qui doit se passer ce soir avec vous. Avec vous, en vous, en moi. La foi, pour moi, elle nous donne, à travers, en fait, cette proximité et cette familiarité progressive avec Jésus dont je parlais, de viser d'une certaine manière davantage la fécondité que la performance, d'être plus disposé à écouter qu'à parler, pour moi c'est très difficile, d'être libéré par la désappropriation plutôt que rassuré par le cumul des biens. Et je dois dire qu'au fond, pour moi, la foi, c'est un double antidote, un double médicament. D'abord pour rester ou devenir plus humain, aussi paradoxal que ça puisse paraître, et pour espérer au-delà de l'humain. Ce sont les deux points que j'aimerais développer avec vous. Rester ou devenir humain, pourquoi ? On pourrait imaginer que la foi nous élève au-delà de l'humain vers des réalités célestes, comme si Dieu était plus en haut qu'en bas. Vous voyez, on a des imaginations spatiales. Mais en fait, nous sommes créés à l'image de Dieu, comme êtres humains. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc plus nous devenons humains, plus nous approfondissons notre humanité, plus nous ressemblons à Dieu. S'approcher de Dieu, ce n'est pas s'éloigner de l'humain. C'est précisément le contraire. La grâce ne fait pas de nous des anges, et qui fait l'ange fait la bête, je ne parlerai pas des abus, mais la grâce nous purifie et nous rend plus humains. Elle nous approche de notre ressemblance et de notre communion avec Dieu. Or, et pourquoi je parle d'antidote, il me semble que nous vivons dans une culture aujourd'hui qui mesure tout. L'efficacité, la performance, la visibilité, la reconnaissance, l'argent. Même la vie spirituelle, d'une certaine manière, finit par entrer dans cette logique. Il faudrait réussir sa carrière, y compris en église, son couple, ses enfants, sa vie chrétienne. Et en plus, on se compare les uns les autres, n'est-ce pas ? Il a eu tant d'enfants, l'autre, il n'en a pas eu autant, mais ils sont bien éduqués. Mais oui, quand on est parent, c'est bien sûr. Or, il me semble que la foi, elle introduit autre chose qui est de l'ordre de la gratuité. Et qui évoque la grâce, bien sûr. Parfois, je ne sais pas si vous le faites, moi, il m'arrive de divaguer, souvent en voiture, et j'imagine que je gagne beaucoup d'argent au loto. Et puis là, je fais des projets, que j'ai une imagination fertile, donc vous voyez, j'aime les voitures, j'aime... Puis je me rends compte, au bout, assez rapidement, c'est drôle parce que je retombe toujours dans la même... qu'en fait, ça ne changerait pas grand-chose à ma vie. En fait, ça ne changerait pas grand-chose à l'essentiel. J'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime les étudiants qui me sont confiés. C'est sûr qu'avoir davantage de confort, de me dire « Allez, on va manger des sushis au Japon le week-end prochain », pourquoi pas ? Ça me ferait plaisir. Mais dans le fond, ça n'apporterait pas plus de sens à ma vie. Ça n'apporterait pas plus d'émerveillement, plus de créativité, plus de présence réelle aux autres. Et je crois que c'est là que la question devient actuelle. Parce qu'à l'époque de l'intelligence artificielle, j'avais prévu de vous faire... Puis après, j'ai renoncé parce que voilà, c'est un peu compliqué. Mais je crois que vous voyez tous à peu près de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle, hein, qui envahit nos vies. Vous utilisez tous ChatGPT, j'imagine. Non. Ça va venir. À l'âge de l'intelligence artificielle, il me semble que devenir humain n'a rien d'évident. Et que le risque de notre époque, qui est probablement le risque du XXIe siècle, sera de réduire l'existence à ce qui se mesure, à ce qui se prévoit, à ce qui s'optimise, à ce qui se contrôle. Mais évidemment que la vie humaine, elle ne se ramène pas ni au calcul, ni à la performance, ni à la prédiction. Elle suppose de la lenteur, du silence, de l'attention, un espace intérieur, de la disponibilité pour laisser surgir quelque chose de neuf, précisément d'imprévu, d'imprévisible. Et on voit bien que le risque aujourd'hui, ça n'est pas seulement de moins penser, c'est que l'intelligence artificielle va nous réduire nos cerveaux en bouillie, mais c'est aussi de moins désirer, de moins attendre, de moins rencontrer réellement. Un agent conversationnel, vous savez ce que c'est un agent conversationnel? Vous pouvez parler avec votre intelligence artificielle. Tout à l'heure, peut-être pendant, si on a une petite pause, je vous montrerai comment ça marche. C'est tout à fait étonnant. Tout à fait étonnant. Un robot qui parle, qui vous comprend, qui vous répond. Qui s'adapte parfaitement à vous, qui vous flatte, qui vous comprend toujours, qui vous dit ce que vous voulez entendre. J'ai une petite confidence, j'ai déposé cette conférence à ChatGPT, à l'intelligence artificielle, pour lui demander ce qu'il pensait de ma conférence. Je pense qu'elle est très bien, figurez-vous. Mais vous voyez évidemment que dans une relation humaine, une vraie relation humaine, elle est pas faite que d'éloges, elle est faite de résistance, de contradictions, elle est faite de débordements, elle est faite de choses que vous n'avez pas prévues. Quand on est marié, mais pas uniquement, c'est au quotidien qu'on éprouve ça. La vie, elle est faite de surprises, si on s'y arrête une seconde. Et la foi m'apprend justement à ne pas tout ramener à la maîtrise, au contrôle et à l'optimisation. Elle me rappelle que le souci de soi n'est pas la programmation de soi, que tout vrai exercice spirituel, la prière, la méditation, la lecture de la parole, mais tout simplement marcher en montagne, pourquoi pas, ouvre un espace de conversion, de disponibilité à Dieu, aux autres et surtout au réel, à la réalité. Et que cela prend du temps. Et cette question du temps et du fait de prendre le temps me semble précisément le contraire de l'accélération technique que nous sommes en train de vivre. Toujours plus, toujours plus vite, toujours plus immédiatement, et ça devient toujours plus insupportable si le colis que vous avez commandé sur Amazon, il n'arrive pas, n'est-ce pas, le lendemain, alors que, etc., il vient de Chine. Cette espèce d'entrée dans l'accélération permanente me semble être quelque chose d'inhumain, auquel la foi, précisément, nous offre de résister. Je vous ai mis un beau texte, encore, de Don Augustin Guilherand, le numéro 4, je vous lis simplement. Il dit ceci, « Être et devenir, ce sont deux choses bien différentes. Les hommes les confondent bien souvent, et voilà pourquoi ils sont si exigeants et si pressés. Le bon Dieu ne fait jamais cette confusion-là, lui, entre être et devenir. Il sait bien qu'un printemps n'est pas un automne et qu'un gland n'est pas un chêne. » Pourquoi nos enfants devraient-ils être sur des écrans et se préparer déjà à 6 ou 7 ans à résister aux fake news? Ils ne savent même pas encore lire. Mes enfants s'émerveillent devant une fleur. Laissez-leur le temps, bon sang, bonsoir. Pardon, c'est mon petit. Ils nous donnent, je continue, nos heures et nos jours pour que nous devenions ce que nous ne sommes pas. Il n'écrase pas une tige de blé naissant parce que l'épi n'apparaît pas encore à son sommet. Il sait bien attendre pour manger le pain qui en sortira. C'est son indulgence très particulière que nous appelons sa miséricorde. Nous sommes tous en chemin. Un enfant n'est pas un adulte dans la vie spirituelle. c'est aussi vrai. Et la foi, je crois, nous ramène à cette réalité profonde de la rythmique de notre intériorité. La foi, dans le fond, elle ouvre d'une certaine manière à ce que les Grecs appelaient le kairos. Vous savez qu'il y a deux mots pour parler du temps. Il y a le chronos, qui est le temps chronologique, le temps qui vient devant nous, et le kairos, qui est ce moment très particulier où il se passe quelque chose, où on a quelque chose à saisir. Et pour le chrétien, ce kairos est très important, parce que le temps, ce n'est pas simplement la planification, ce que je ferai demain, et mes vacances, et ma retraite, et ma prévoyance, etc. C'est important, je ne dis pas que ce n'est pas important. Je dis que le rapport au temps couvre la foi, et celui où chaque instant est un moment opportun, où l'avenir absolu, c'est-à-dire le présent de Dieu, l'avenir absolu peut faire irruption dans nos vies. Ce que la foi, me semble-t-il, m'apporte au présent, c'est donc en conclusion un horizon ouvert, une espérance pour l'avenir, et c'est sur ce thème de l'espérance que j'aimerais vous entraîner maintenant et conclure ensuite cette conférence. Vous savez que saint Pierre dit qu'il nous faut rendre compte de l'espérance qui est en nous. Et je crois que l'espérance est une des caractéristiques du principal du chrétien. La charité, c'est user, on dit faire la charité. Très bien, c'est très beau la charité, je ne dis pas. Mais l'espérance, comme disait Peggy, c'est cette petite vertu qui est tellement oubliée. Cette petite fille, n'est-ce pas, qui est oubliée et qui pourtant porte le monde. On confond souvent l'espérance avec l'optimisme. L'optimisme dit, t'inquiète pas, ça va s'arranger. En fait, on n'en sait rien. L'espérance ne dit pas cela. L'espérance dit autre chose. Elle persévère dans la fidélité à une promesse, même quand les raisons humaines d'espérer semblent épuisées. Et cette espérance-là, j'en fais l'expérience, elle paraît facile quand on est jeune chrétien, jeune converti, jeune fervent. Elle devient toujours plus essentielle et plus difficile quand on avance dans la vie chrétienne. Et je vous ai mis un beau texte du cardinal Journet, qui dans une retraite qu'il a prêché sur l'espérance, disait ceci, que je trouve très beau. Je vous lis ça, je crois que c'est le texte numéro 5. C'est une grande vertu, dit l'abbé Journet, elle devient de plus en plus chère à mesure qu'on avance en âge. Quand on est jeune, on croit que l'espérance est facile, on croit l'avoir. Plus tard, quand viennent les difficultés, quand la vie vient meurtrir les cœurs, quand on voit s'écrouler tous ses projets, surtout les plus beaux. Alors vient une sorte de découragement assez profond auquel le peu échappe et que Peggy appelle le vieillissement. Toutes les puretés du commencement de la vie, tout ce qu'on avait vu avec des yeux d'enfant, voilà que cela s'est souillé en cours de route. Rien ne garde sa fraîcheur et le cœur lui-même semble s'être flétri. Torpeur, dégoût, lassitude, tout cela l'envahit. Mais on est pris dans le jeu. Il faut aller jusqu'au bout, on continue. Et on commence à pencher la tête vers la terre comme un bœuf qui tire la charrue. Jusqu'au moment où une maladie vient nous emporter de cette vie à laquelle on n'a rien compris. Alors heureux, dit l'abbé Journet, bien heureux ceux qui ont la sainte espérance, parce que leur vie, au lieu de descendre comme celle de beaucoup, va monter. Et au lieu de s'incliner vers les choses matérielles, vers les détails, de plus en plus détails, elle va s'élever vers les choses de plus en plus spirituelles et hautes, et sans non plus regarder vers la terre, mais s'élever vers le ciel. Si on n'a pas le ciel, que nous restera-t-il, conclut-il. Saint Paul, en parlant d'Abraham, à cette expression, vous savez, tout à fait étonnante, espérance, espérant contre toute espérance, il crut. Vous avez déjà entendu ce passage de Saint Paul sur Abraham, espérant contre toute espérance, il crut. Il est magnifique ce passage parce qu'il nous montre qu'au fond, il y a deux espérances. Il y a la petite espérance naturelle fondée sur les probabilités et la grande espérance théologale fondée sur la promesse de Dieu. Espérer contre toute espérance, ce n'est pas nier la réalité et les difficultés, c'est consentir à la promesse de Dieu là où les motifs purement humains d'espérer deviennent insuffisants. Je vous ai mis un autre texte de Don Augustin Guilleran, le texte 6, c'est un texte tiré de l'Épître aux Hébreux, où il nous dit justement que l'espérance, nous la tenons comme une encre sûre et solide pour l'âme. L'encre, c'est un des symboles dans le christianisme primitif. Et dans le texte 7, dont Augustin Guilleran dit ceci, « L'avenir ne nous appartient pas, la vie n'est pas ce que nous la faisons. Dieu seul en dirige le cours. Tout ce que nous pouvons faire est d'accepter avec confiance cette direction qui est débordante d'amour. Ne voyons pas trop ce que sont les hommes, ni les choses, ni les événements. Le spectacle est si souvent décourageant. » Sous-entendu, arrêtez d'écouter les infos, quoi. Regardons celui qui règle souverainement tous ses mouvements et qui les fait concourir à un plan d'amour infini. Enfonçons-nous de plus en plus dans ces vues de foi qui seules sont intelligentes et vraies. Ce sont les vues mêmes de Dieu et tout ce qu'il fait ou permet, en tout ce qu'il fait ou permet, il ne voit et ne veut que son amour. Faisons comme lui. Évidemment, les apparences sont déconcertantes, le monde est plein de mal et de haine. Comment voir l'amour en des manifestations si opposées? On ne le voit pas, on le croit. Et on voit le lien ici entre la foi et l'espérance. Croire, c'est voir dans la lumière de Dieu, c'est s'en rapporter à lui qui nous dit « Vos yeux du corps, votre raison voit le mal, mais ces vues sont superficielles. Le fond de tout, c'est l'amour. » Le fond de tout, c'est l'amour. Et je crois qu'il n'y a pas de plus belle définition de l'espérance chrétienne. Le fond de tout, même quand on est au fond du trou, c'est l'amour. Vivre sa foi aujourd'hui ne change donc pas tout d'un coup, en tout cas pas pour moi. Ça change ma manière d'espérer, ma manière d'aimer, ma manière de traverser l'épreuve, et surtout, ça m'empêche de devenir cynique. Il me semble en fait que sans l'espérance, deux dérives nous menacent. D'un côté, le triomphalisme, croire que toute nouveauté est automatiquement bonne, hein, que tout progrès est déjà salut. Il y a des théologiens d'ailleurs qui estiment que l'intelligence artificielle est voulue de Dieu, fait partie du plan du salut. Bon, je ne sais pas quelle Bible ils lisent ces gens, mais... De l'autre... Tentation, il y a le désespoir apocalyptique. J'ai vu des étudiants comme ça, croire que tout changement est décadence, que tout est perdu, que tout est signe que, oh là là, avant c'était bien mieux. Il faut lire les pères de l'Église qui déjà, dès le deuxième siècle, se plaignent, n'est-ce pas, que parmi les chrétiens, il y a des faux évêques, des faux martyrs, bref. Je crois que l'espérance ouvre une troisième fois entre ce triomphalisme un peu naïf et puis ce désespoir apocalyptique qui n'est pas chrétien. Je crois que l'espoir permet de reconnaître des grâces qui émergent, de reconnaître aussi des opacités et des violences, il ne faut pas les cacher, il faut les dénoncer, et de discerner que Dieu agit au milieu même de ces ambivalences sans se confondre avec les logiques précisément de puissance et de performance. Dans un monde bruyant, apprendre à reconnaître le souffle léger est déjà une prière. Dans un monde fatigué, garder un cœur capable d'émerveillement est déjà une résistance. Je dois, je vous le confie, faire un acte de foi pour m'émerveiller devant mes enfants. Parfois, j'ai envie de les jeter par la fenêtre, vous voyez. C'est normal, c'est humain. Et on se surprend des colères qu'on peut éprouver à l'égard de ses enfants. Après, quand on se regarde, vous voyez, on se dit « mais c'est moi ». Mais on peut poser un acte de foi et dire « attends, mais là, il se passe quelque chose, c'est ton enfant ». On prend le temps. Et quand on le fait, on découvre des choses insoupçonnées. Les questions des enfants, magnifique. C'est eux qui devraient enseigner à l'université, en fait. Une dernière conviction me paraît décisive, je vous la partage comme ça. c'est que dans l'expérience de foi et d'espérance, la beauté n'est pas juste un supplément esthétique. Je crois de plus en plus, et je suis convaincu que la beauté est une médiation, que c'est comme le voile du mystère dont je vous parlais. Et si vous regardez la Bible, elle est remplie de poésie. Elle ouvre des espaces habités. L'imagination, en fait, n'est pas, et la beauté ne sont pas les ennemis de la foi. Et je crois que espérance et imagination vont vraiment de pair. Et vous trouvez ça, par exemple, dans l'Apocalypse, dans la Bible, qui est rempli d'imagination, de symboles, qui est en fait le déploiement d'une espérance à travers l'épreuve du mal. Voilà. Mais je ne veux pas développer ce soir, mais je voulais vous le dire, je pense que la beauté est un élément essentiel, pas simplement dans la liturgie, dans tout. Vous voyez, des jolis carnets comme ça, là, ça dit quelque chose de ce qu'on vit ce soir. Si c'était moche, on n'aurait pas envie. Et ça trahirait, en fait, la beauté de ce qu'on peut vivre dans ces... C'est bête, hein ? Ah, c'est du design. Non, la beauté, c'est important. Je conclus. Là où le mystère est vivant, il y a profondeur, il y a progression, il y a transformation, il y a élévation. Souvent, il y a silence. Je vous l'ai dit, je crois que la vie chrétienne, en tout cas c'est ce que j'essaie de vivre, est un chemin de prière. Et je crois que la foi est fondamentalement un passage. On oublie parfois, mais dans la gloire, il n'y a plus la foi. Au ciel, il n'y a plus la foi. Ce n'est qu'ici-bas qu'il y a la foi. Ici-bas, in via, en chemin. Mais ici-bas, quand le mystère disparaît, il reste la peur. Il peut rester la frustration, la crispation, c'est parfois ce qu'on peut éprouver. Alors, il peut arriver qu'on absolutise la forme, qu'on rigidifie le symbole, et qu'on confonde surtout défense et fidélité à la foi. Et je crois qu'on oublie quelque chose d'essentiel, c'est que le mystère n'est pas fragile. Il n'a pas besoin d'être protégé. C'est lui qui appelle à une transformation intérieure. Il appelle à être accueilli, il n'appelle pas à être contrôlé. Il me semble donc que ce qui nourrirait ou nourrit ma foi aujourd'hui, c'est d'abord le souffle large, le souffle habité. C'est pour ça que j'aime me plonger dans les pères de l'Église et je crois que retrouver... Le mystère, ce n'est pas compliquer la foi, c'est précisément lui redonner sa respiration. Voilà, donc vivre sa foi aujourd'hui, qu'est-ce que ça change ? Certainement, ça ne retire pas la fatigue, ça ne retire pas les épreuves, ni les ambiguïtés du temps présent, mais ça peut changer profondément notre manière d'habiter le monde. Ça offre, je crois... un sourire. Et je vous ai mis un beau texte, c'est le dernier texte de Don Augustin Guilherand qui dit ceci, je crois que je suis dans les temps, j'ai encore 5 minutes, ça va. Et qui je trouve est très rassurant, parce qu'une source de tristesse, évidemment, quand on a la foi, c'est la conscience de plus en plus grande de son imperfection, de ses limites, voyez. Plus on veut aimer, plus on a des proches, et plus on se rend compte qu'on en est incapable et qu'on les fait souffrir, et on se fait souffrir. Et voilà. Et donc, Augustin Guilherand dit ceci, « Moi, je ne suis pas abattu parce que je suis imparfait, et je ne veux pas que tu sois découragé parce que la perfection, cet oiseau rare, cet oiseau du ciel, s'est encore dérobé à tes poursuites. Non, pas de découragement, précisément pour continuer ta poursuite. » La foi est poursuite. La perfection de la terre, c'est cette poursuite. Et c'est le courage de la continuer jusqu'au bout et malgré tout. Cette phrase est magnifique. Je te conseille, dit-il, de sourire à tes défauts quand tu les regardes. Je te conseille plus encore de sourire à tes qualités, à tes efforts, à tout ce qu'il y a de bon en toi et en remercier le bon Dieu qui t'a tout donné. Je te conseille enfin et surtout de sourire au bon Dieu lui-même, à notre Seigneur présent au tabernacle et qui attend ses sourires et qui saurait changer en joie ses regards attristés sur toi-même. T'ai-je cité une belle pensée que j'ai copiée il y a de longues années et que je me rappelle bien souvent ? La tristesse, c'est le regard sur soi, la joie, c'est le regard sur Dieu. Médite-moi ces mots-là et tu y trouveras le secret du bonheur. Les âmes étouffent parce qu'elles sont étroites. Elles sont étroites parce qu'elles restent dans les bornes de leur tout petit moi. C'est tout naturel qu'elles manquent d'air dans cette prison-là. Il faut en sortir, nous sommes plus grands que nous. Nous sommes plus grands que nous. Voilà pourquoi nous souffrons en nous. Nous sommes grands comme Dieu, mais à la condition d'entrer en lui. Tout cela paraît bien compliqué et mystérieux. C'est une manière qu'il a de parler du mystère, vous avez bien compris. Non, ce sont nos mots qui ne sont pas faits pour traduire ces réalités très simples. Alors il faut les multiplier, il faut faire des conférences de carême. Et malgré leur grand nombre, ils sont beaucoup plus des voiles que des lumières. Heureusement, nous pouvons nous en passer. La foi les remplace avantageusement. La foi, c'est cet élan, cette poursuite du mystère, ces sourires que l'on pose, y compris sur nos imperfections, et d'abord sur Dieu. Au fond, et peut-être c'est cela que la foi change le plus, elle nous empêche de désespérer de nous-mêmes, de l'homme, du monde, de l'Église, de nous-mêmes. Elle nous rappelle que le réel est plus profond que ce qui s'y montre, que l'histoire est plus ouverte que ce qu'elle laisse croire, et que Dieu travaille encore, encore maintenant, aujourd'hui, au cœur même de ce qui nous paraît obscur. Et vous me permettrez un tout petit mot, puisque hier encore à Kersers, il y a eu un drame qui a emporté des vies, et je crois, et j'aimerais le dire, que évidemment devant de tels drames, la foi, elle ne justifie rien. Elle ne va pas combler l'abîme. Mais ce qu'elle apporte, je crois, c'est qu'on ne va pas détourner le regard. Elle nous apprend à pleurer avec ceux qui pleurent et à croire que la dernière parole n'appartient pas à la nuit. Elle nous ouvre vers cette espérance dont je vous parlais. Et peut-être que vivre sa foi aujourd'hui, c'est cela que ça change. C'est refuser que le monde devienne normal quand il est tragique. Et tout en maintenant que toutes les vies brisées, blessées, inaccomplies, il y a des drames dans les médias, mais il y a combien de connaissances parmi nous qui sont brisées. Encore un ami là qui est mort la semaine dernière d'un cancer, père de 3 enfants. La foi, c'est que tout ça n'a pas le dernier mot en Dieu, je crois. Est-ce que ce n'est pas ce chemin de carême qui nous conduit dans le fond vers la lumière de la résurrection, qui nous conduit dans le mystère, qui nous invite à consentir sans se forcer à cet amour qui nous dépasse, à lui confier notre vie, pauvrement mais réellement, et en apprenant ultimement un peu plus aussi à nous aimer nous-mêmes. Voilà. Je vous remercie beaucoup.